merci pour l'occasion que nous avons de partager. On va ouvrir la Bible ensemble. Je voudrais vous faire des annonces. Déjà, il était trouvé une alliance là devant. On me demande si quelqu'un l'a perdue de venir tout à l'heure nous voir. Si vous l'avez perdue, d'accord. Voilà. Vous donner quelques informations. Je vous rappelle que on a nos réunions habituelles. Il n'y a pas de souci. Vous savez aussi que il y a l'Assemblée Générale, pour ceux qui sont de l'association Bethany, il y aura samedi après-midi l'Assemblée Générale à la Méridienne à 17h. Pardon. 14h30, pardon. C'est la réunion qui suivra avec les résidents à 17h. Mais ça, je leur dirai, parce que si vous êtes connectés, vous allez vous dire, on n'est pas informé, mais je vous envoie ça normalement demain. Et puis, dimanche prochain, Montredon. Et vous savez aussi qu'on a des baptêmes qui se profilent. Et il y aura donc le mois prochain et au mois de juin aussi quelques baptêmes. Le mois prochain, j'ai décidé qu'on puisse la présenter aujourd'hui. Et c'est Nolwenn qui va se lever. Est-ce qu'on la fait venir devant? Non, elle ne veut pas, je crois. Tu peux venir? Si, viens. Hein. Bah, elle a envie. Tu peux mettre un micro, là, s'il te plaît. Viens, monte, s'il te plaît. Voilà. Je laisse te présenter. Hein.
Donc, je m'appelle Nolwenn, je suis mariée, j'ai un enfant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On est d'Albi, nous étions sur la région parisienne et nous sommes revenus donc depuis 2 ans.
Voilà.
Et voilà.
Et donc, tu te fais baptiser?
Et je me fais baptiser le 12 juin, voilà. Dimanche.
Voilà, c'est pour que ça s'accommode avec la scène, hein, pour que dans 15 jours, ça aille mieux. Merci. Merci Nolwenn, prions et on prie pour elle et on prie pour cette famille bien sûr, hein. Et également son époux Laurent, que Dieu vous bénisse, Noé, le petit Noé, que Dieu les bénisse. Voilà, donc vous viendrez, ce sera le 12 mai à 15h30, hein, pour vous qui voulez participer. Il y a également l'instruction baptême qu'on a eue hier et on vous encourage, vous qui suivez l'instruction baptême, à vous accrocher au Seigneur, à vivre une expérience profonde, parce que c'est important. De connaître la grâce de Dieu, c'est bien pour vous. Je voudrais aussi, peut-être, je ne le fais pas, mais faire lever tous ceux qui sont des équipes de ménage. Vous pouvez vous lever votre place à des équipes de ménage? Osez vous lever, hein, vous avez le droit. Voilà. Et je crois que vous pouvez les remercier, on peut les remercier de tout notre cœur. Parce que, ouais. Parce que semaine, merci, je pense qu'il en manque là. Hein. Parce que semaine après semaine, c'est propre, hein. Et on est habitué à ce que ce soit fait, et presque, c'est légitime, et nous sommes légitimes, mais c'est quand même parce que certains osent prendre le balai, la pelle, passer après nous, etc., et on veut les remercier. Hein, on veut les remercier. Maintenant, je voudrais juste leur dire quelque chose, tous les autres qui n'êtes pas du ménage, vous taisez. Vous écoutez pas, voilà. C'était vous dire que des fois, je mets des tables en place, vous savez, j'anticipe sur des réunions, je pense, par exemple, hier, j'avais mis 3 tables, des fois, le mardi soir, je fais ceci ou cela. S'il y a des tables en place, s'il vous plaît, si vous pouvez, hein, laissez-les sur place, ça m'évite de le refaire après. Hein. Voilà, c'est juste un détail pratique, hein, c'est parce que des fois, je me dis, ils me font des coups de Trafalgar, là. Hein. Je viens à l'avance, exprès, la veille, je viens, je mets en place, je dis, super, demain, j'arrive, c'est pile poil prêt, j'arrive, il n'y a plus rien. Ah, je dis, dommage. Voilà, merci. Merci de votre compréhension. Vous me sauverez de ce problème qui, des fois, me rend anxieux. Mais en tous les cas, un grand merci, sérieusement, un grand merci à tous ceux qui font le ménage. C'est pas simple. Hein, et aussi, ça nous invite, ça nous... Comment dire? Si on utilise les sanitaires et tout ça, on fait attention, on ne laisse pas les lumières allumées. Comme ça évite un petit peu que quelqu'un passe derrière nous à chaque fois. Et c'est bien de le faire ainsi. En tous les cas, un grand merci. On n'oublie pas ceux qui sont souffrants, qui traversent des moments difficiles. On n'oublie pas notre sœur Sephora. Hein, et bien sûr, son mari Angelo. On n'oublie pas aussi Maria, notre sœur Maria Garcia. Elle est sortie de la maison de rééducation de l'UMT. Elle est rentrée chez elle vendredi. Hein, et on se réjouit, mais on bénit ses familles. On pense à tous ceux qui sont dans des moments compliqués. Voilà. Dimanche prochain, je ne sais pas si jeudi, je crois que oui, on a la réunion à Montredon l'après-midi. Oui, je l'ai dit. Bon, ça, vous voyez que je commence un peu à radoter. Hein. Alléluia. On va prier. Il n'y a pas mon rendez-vous dimanche prochain. Ah ben vous voyez, on radote vraiment. Oui, c'est ma femme qui radote. C'est maintenu. Je suis content. Allez, s'il vous plaît, on va se concentrer sur la parole, c'est plus intéressant que nos histoires de radotage. On va prier ensemble, on va demander au Seigneur de nous aider à percevoir, et surtout que nous puissions nous décider à nous concentrer sur sa parole. Parce qu'on est souvent préoccupé dans nos pensées, mais peut-être il est bon pour nous de faire silence et écouter au mieux sa parole. C'est vrai, ta parole n'est pas la parole des hommes. Ta parole est inspirée et elle est utile pour chacun d'entre nous. C'est vrai, comme le dit le texte, pour nous convaincre, pour nous corriger, nous instruire dans la justice, pour nous éclairer. Et elle est comme cette lumière sur notre sentier, elle nous éclaire, elle nous montre le chemin à suivre. Et tu nous invites à la considérer avec un cœur ouvert. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Seigneur, à la proclamation de ta parole, nous savons que tu peux soulager, transformer, guérir. Tu peux relever, parler. Tu es le même aujourd'hui. Merci pour ce moment et permets que nous puissions vraiment percevoir ton intention, tes desseins pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Aujourd'hui, il n'y aura pas de PowerPoint. Hein ? Vous savez que peut-être, vous ne savez peut-être pas, hein, si vous venez pour les premières fois, on fait partie des Églises et Assemblées de Dieu de France, des Assemblées de Dieu de France, qui est une structure juridique, hein, avec une union, hein, qui est là, et une fédération. C'est obligatoire, c'est la loi, ce n'est pas parce qu'il fallait faire ça pour faire ça, mais ce n'est pas marqué dans la Bible qu'il faut faire des associations, juridiquement parlant, mais l'État nous a obligés. Je dis ça parce que la question de départ, c'est pourquoi l'Église locale existe-t-elle ? Pourquoi une Église locale, comme ici ou ailleurs, il y en a d'autres sur la ville, pourquoi existe-t-elle ? Alors on va ensemble aller au moment de la création de l'Église locale, et je suis demandé à Léa, s'il te plaît, de projeter les versets. C'est dans Actes 2, mais si vous avez votre Bible, c'est bien de chercher aussi. Comme ça, on n'oublie pas l'ordre des livres, on n'oublie pas le texte écrit aussi. Actes 2, 41. Nous sommes juste après ce temps fabuleux que le Seigneur avait annoncé en disant « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que j'envoie sur vous la promesse de l'Esprit-Saint ». Et dans Actes 2, 41, il est dit ceci « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Voilà un récit que l'on connaît, on a beaucoup entendu parler, prêcher dessus, mais si bon pour nous de nous rappeler cette parole, elle n'est pas désuète, elle n'est pas, une fois qu'on le sait, bon, on n'a plus besoin, elle est comme une nourriture pour nous. Et je voudrais nous encourager ce matin de diverses manières. Alors pourquoi l'Église existe-t-elle ? Est-ce qu'elle est faite, l'Église ? Vous répondez dans votre tête, mais ne répondez pas haute voix, s'il vous plaît, parce que on verra les réponses qu'on peut y apporter. L'Église est-elle d'abord pour les croyants ou l'Église est-elle d'abord pour apporter le message du salut au monde ? Oui, ne répondez pas. Mais il y en a, ils ne peuvent pas s'empêcher de répondre. Hein. Je vous embête. Hein. La question est importante car selon notre réponse, en tant qu'Église, on va adapter, le fonctionnement va s'adapter à notre réponse. Et on va orienter certaines choses selon notre réponse. Tout son fonctionnement va graviter autour de cette réponse. Quelle est la priorité de l'Église locale en définitive ? C'est quoi la priorité de l'Église locale ? C'est quoi exactement l'Église locale ? Alors, permettez-moi de faire ça va être assez long l'introduction pour arriver à un point. Hein, donc, ne soyez patients. En plus, je vais faire venir des gens devant. Hein. Ils le savent. J'aurais pas dû le dire parce que vous auriez été anxieux. Si l'Église est d'abord d'apporter le message du salut à l'humanité, bon nombre de ses activités seront orientées vers cet objectif-là. C'est-à-dire qu'on va tout mettre en place pour chercher à transmettre le message du salut et on veut le faire parce que la Bible dira, Jésus dira dans Matthieu 28, « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qu'on fera pour ceux qu'on va baptiser, hein, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, etc. » ça, si l'Église, d'accord, est orientée d'abord, pardon, vers le message du salut, on va faire ça. Si l'Église est pour les chrétiens, alors croyants, disciples, on va employer le mot disciples, elle est plus là pour aider à progresser dans les voies de Dieu, dans la sanctification. Elle est préparée également à préparer les chrétiens à la vie éternelle, à travailler dans l'œuvre de Dieu, mais à prier en commun, à lire la Bible, comme on voit d'Actes 2, 42. Hein. Voilà, parce que la Bible est appelée hors de cet esprit du monde. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, à l'effet de toutes les nations des disciples, d'abord, il faut être un disciple. Et on va en parler tout à l'heure, les baptisés au nom du Père. Alors, quelques remarques. La première remarque, c'est que je ne veux pas opposer l'un concept contre l'autre. C'est-à-dire, je ne veux pas dire l'Église ne doit pas évangéliser, je ne veux pas dire non plus l'Église n'est faite que pour évangéliser. Ce ne serait pas cohérent, parce que vous regardez dans le texte de Matthieu 28, c'est entremêlé, c'est indissociable, c'est attaché. Hein. Je ne veux pas engager un débat concernant la primauté de l'une ou de l'autre des fonctions ou des enseignements qui sont donnés. Parce que là où il n'y a pas d'église locale, par exemple, si on va, je ne sais pas moi, dans un pays ou dans une région où il n'y a pas du tout d'église locale, ben, qu'est-ce qu'il faut faire avant tout? Il faut évangéliser. Pour qu'il y ait des âmes qui se soient sauvées et qu'à partir de là, éventuellement, il y ait une église qui puisse s'implanter. C'est là notre désir, c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qu'on veut faire à Sainte-Afrique. Il faut commencer par évangéliser pour constituer une église locale. Avec, voilà. Mais c'est peut-être plus le rôle d'un évangéliste ou d'un missionnaire ou d'un apôtre de faire ces choses-là. Par contre, là où l'église locale existe, le but du rassemblement, c'est d'édifier, d'instruire, hein, et c'est là dans Éphésiens que vous retrouvez ces choses par rapport au ministère don de Christ, en vue d'équiper pour le service les chrétiens auxquels le Seigneur les appelle. Ce service que le Seigneur suscite dans le cœur de chacun d'entre nous quand on est chrétien. Une autre remarque, peut-être ça va pas vous, je sais pas si ça va vous plaire ou pas, ça dépendra de votre point de vue, hein. Il y a deux précisions pour nourrir notre réflexion. La première, c'est celle-ci. Il y a à peu près, dans le Nouveau Testament, à peu près 1000 impératifs, hein, dans le Nouveau Testament qui nous sont communiqués par le texte biblique. Un tiers, à peu près, il y a trois tiers, si vous voulez, un tiers concerne notre relation avec Dieu. Vous voyez, la relation avec Dieu, la repentance, la fidélité à Dieu, l'obéissance, etc. Ça, c'est un tiers un peu des textes qui disent ces choses-là. Et un second tiers concerne différents aspects du comportement dans la vie courante. C'est-à-dire, ça nous concerne. Je dois mettre la parole de Dieu en application, en pratique. Je vais marcher dans la justice, je vais chercher à faire ce que Dieu me demande de faire, à essayer de me tenir, d'avoir un comportement, pardon, dans ce monde humble, patient, etc. Ça, c'est à peu près un autre tiers. Et le dernier tiers concerne les relations au sein de l'Église, les uns les autres. Hein, vous savez, on a assez parlé. Mais les relations aussi donc au sein de l'Église, avec les responsables de l'Église, la discipline dans l'Église, et tout ça, c'est dans à peu près un tiers. Donc vous voyez, un tiers, je répète, pour la relation avec Dieu, un tiers pour les aspects de comportement dans la vie courante, et un tiers pour notre relation avec nous. Mais on ne trouve pas, ou très peu de passages, du moins dans les Épîtres, vous ne trouvez aucun passage direct où il est dit directement que les chrétiens doivent évangéliser. Ce n'est pas écrit dans les Épîtres. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas évangéliser, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je crois qu'il est nécessaire que l'Évangile soit proclamé pour que les âmes soient touchées. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est marqué et c'est une évidence. Mais aucun commandement n'appelle directement les chrétiens à évangéliser les païens. Pourquoi ? Et parce que c'est notre vie qui doit interpeller le contemporain. C'est notre changement de vie. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre, je vous le lis. Un Pierre de 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Vous voyez ? C'est notre témoignage. C'est pour ça que Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Il n'a pas dit « Parlez, parlez, parlez ». Il nous a dit d'être entier pour lui. Dans 1 Pierre de 15. « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Vous voyez, il y a des textes, et vous lisez les Épîtres, on s'aperçoit que c'est plus axé sur notre attitude de cœur, sur notre mentalité, sur notre cœur rempli de Dieu, qui fait que c'est ainsi qu'on témoigne aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taire, hein. Ça veut dire que parler, oui, mais ce n'est pas parler et avoir un témoignage contraire, il vaut mieux se taire. voyez ? Des fois, il vaut mieux ne pas trop parler et être plein de vie que trop parler et être moins de vie. Et le mieux, c'est les deux, si on peut, hein, mais bon, bref. Sanctifié dans mon cœur, dira l'apôtre Pierre, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est-à-dire que des fois, on va vous interpeller, on va nous interpeller, pourquoi vous vous comportez comme ça, etc. Et il nous est dit de nous défendre avec douceur et respect. Pourquoi ? Parce que peut-être on nous demande des arguments, on argumente des choses contraires, mais on n'est pas dans l'inquiétude, on est dans la paix et l'amour, et on respecte le prochain. Si on ne sait pas respecter, regardez comment Jésus a fait. Hein. Il a respecté tous les êtres humains qu'il a rencontrés. Alors, avec ceux qui étaient un peu irrespectueux, il les a vite démasqués. Hein. Mais il a été toujours dans la volonté de les amener à la vie. Les apôtres pensaient probablement, c'est pour ça que les épîtres ont été écrites aussi, pensaient probablement qu'avant de pouvoir valablement témoigner, il fallait apporter au monde un témoignage d'une vie transformée. Si on est transformé par la puissance et la grâce de Dieu et l'amour de Dieu, mes amis, il ne faut pas s'efforcer de témoigner pour s'efforcer. On est des témoins vivants. Vous êtes la lumière du monde, dira Jésus. Hein, voilà. Donc avant de pouvoir porter la parole de vie, il nous faut d'abord connaître cette parole de Dieu. Oui, on le sait bien, mais je ne fais que rappeler des choses que vous savez, mais je nous le rappelle, je me le rappelle le premier. Hein. Avant d'arracher au monde des âmes perdues, il faut d'abord constituer une famille dans laquelle des âmes qui viendront puissent trouver un abri, un encouragement, la vérité aussi, parce qu'on n'est pas là pour faire, excusez-moi, pour choyer les gens dans ce qu'ils sont, on est là pour les amener au pied du Seigneur, pour que le Seigneur les bénisse et qu'il les fortifie. Hein, on veut accueillir, entourer, soigner, aider dans le relèvement, parce qu'on sait que le Seigneur restaure les âmes, on sait que le Seigneur délivre les gens, on sait que le Seigneur guérit les cœurs brisés, il est le Tout-Puissant. Hein, et nous voulons rappeler ces choses. Alors, on peut déduire que l'Église locale est à la fois entre les mains de Dieu, pour édifier le corps de Christ, je lisais mal ma phrase, et pour aller vers les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et pour nous, il ne faut pas. Des fois, on a un cœur un petit peu, on veut sauver, on a un cœur plus orienté vers l'évangélisation, là on va mettre un peu ça en avant, et on va mettre un peu des textes bibliques un peu en dessous, et dire c'est ça la priorité. Attention, pour moi, il me semble qu'il faut respecter toute la parole dans son ensemble, parce que ça ne s'oppose pas, mais ça se complète énormément. Hein. Considérons ces priorités en respectant la vision biblique. Pas ce que nous aimons en priorité, ou qui est dans notre cœur, qui brûle, mais ce que la Bible dit. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de variations globalement dans la société, et même dans les églises, les milieux d'église, il y a beaucoup des fois des axes qui sont mis en avant au détriment d'autres, et ça part un petit peu de droite et de gauche, mais en vérité, ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Je voudrais rappeler l'importance de faire non de croyants, mais des disciples. Vous savez, je crois que c'est Alain Boissol qui avait fait l'allusion, hein, en disant qu'il y a une différence entre un chrétien et un disciple. Le croyant, lui, il accepte Jésus dans son cœur, mais Jésus a une place de sauveur, et il est sauvé, mais il reste un petit peu à, voilà, je crois, je respecte Dieu, hein, il continue sa vie un peu comme il entend, tout en craignant Dieu. Il assiste aux réunions, il garde le contrôle sur certaines choses. C'est ça le problème, c'est qu'il pense que le Seigneur, il n'est que pour une catégorie de choses dans sa vie, là, mais l'autre partie de sa vie, c'est plus personnel. Donc je gère comme je veux, etc. Ça, c'est un peu le croyant qui... Et on est tous, à un moment donné, si on ne veille pas, on va sur ce chemin-là. Et c'est quand même dommage, parce que le Seigneur demande qu'on ait un cœur de disciple. Faites de toutes les nations des disciples. Et faire des nations des disciples, ça veut dire qu'on accepte Jésus, mais on va se soumettre entièrement au Seigneur. Pas seulement dans ce qui concerne notre foi, ou notre, croyance ou religiosité, mais bien plus que ça. Hein, nous voulons lui être complètement consacrés. Il continue à le disciple, il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même, ça ne veut pas dire qu'il se méprise, qu'il n'a pas d'ambition, qu'il n'a pas de perspective d'avenir. Hein. Renoncer à soi-même, c'est accepter que Jésus puisse avoir son mot à dire sur tous les domaines de notre vie. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Hein. Je ne sais pas vous. Hein. Non, mais là, vous pouvez répondre. Hein. Et si vous regardez la différence entre disciple et un croyant, vous allez voir qu'il y a une différence notoire. Une différence notoire, je ne vais pas la développer, parce que je voudrais maintenant inviter tout à l'heure les personnes à venir. Je vous donne juste quelques éléments. Je les ai là, j'en ai plusieurs, mais je voudrais expliquer les termes chrétien et disciple. Ils sont liés, mais ils ne sont pas synonymes du tout. Par exemple, disciple, dans le Nouveau Testament, je vous épargne le mot grec, il a un sens plus fort que celui d'étudiant ou apprenti ou croyant. Hein. Un disciple est quelqu'un qui suit son maître et adhère totalement à son enseignement pour en faire sa règle de vie et de conduite. C'est-à-dire que l'enseignement biblique, je peux l'écouter, le regarder, vous le considérez, je prends des choses qui m'intéressent et laisser d'autres choses à part. Ça, c'est le croyant qui peut-être va vivre ainsi. Mais le disciple lui dit non. Tout ce que Dieu me dit, c'est pour moi. Vous allez dire, oui, c'est dur, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Hein. Vous vous rappelez, il y avait des disciples de Moïse, il y avait des disciples de Jean-Baptiste, il y avait des disciples de Jésus. Hein. Donc il y a toujours eu des disciples. Hein. Et je dirais, Jésus a clairement défini le prix à payer pour être son disciple. Vous voyez quand il dira, « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Luc 14, 33. Luc 9, 23, il dit « Si quelqu'un veut me suivre. Hein. » La vie du disciple requiert des sacrifices. Hein. Et si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire qu'il renonce à ce qu'il ait la priorité, la primauté sur sa vie. Il désire que Dieu soit toujours un peu le maître de sa vie, un peu. Il soit le maître de sa vie. Et voilà. Hein. Et tous ceux qui suivaient Jésus n'étaient pas prêts à un tel engagement. D'ailleurs, si vous lisez dans les Jean, par exemple, vous apercevrez qu'à un moment donné, quand Jésus va parler, celui qui ne boit pas mon sang, qui ne mange pas ma chair, etc., et nous est dit que plusieurs de ses disciples, ce jour-là, ils ne comprennent pas la phrase, les phrases, la portée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Et Jésus va en plus se tourner vers ceux qui restent et dit « Et vous ne voulez pas partir ?» Et on voit que, vous voyez, être disciple, des fois, ça dépasse un petit peu ça va plus loin. C'est un amour inconditionnel à l'égard du Seigneur qui fait que des fois même, il y a des choses que je ne comprends pas dans la Bible, qu'on peut ne pas comprendre. Mais au lieu de buter, de dire « Ah, le Seigneur, c'est dur ce qu'il me dit, c'est peut-être parce que je ne le comprends pas. » Et ainsi, comme là, il ne le comprenait pas, parce que quand Jésus dit ça, il ne comprenait pas la portée du message. Il ne demandait pas d'être des cannibales, le manger à lui. Hein, il ne demandait pas ça. Mais c'était dur, et c'est vrai que ça pouvait déstabiliser. Et l'Évangile, des fois, peut nous déstabiliser sur certaines choses dans nos vies. Et j'ai deux solutions. Soit je la rejette, et je dis « Ah, c'est trop dur, j'ai le droit, hein. » Soit je dis « Mais je ne comprends pas. » Ça m'est dur, oui, ça m'est dur. Et devant le Seigneur, je vais parler, je vais lui dire « Pourquoi je ne comprends pas ça? Je trouve que c'est dur, je ne comprends pas cette marche, je ne comprends pas cet aspect-là, un petit aspect-là, qui est tellement troublant. » Et vivre l'Évangile et être un disciple, ce n'est pas chose simple, mais c'est le Seigneur a la primauté sur ma vie. Et il cherche à aller plus loin. Donc, je suis parti un petit peu, à côté, là, mais persévérer dans l'enseignement, c'est le titre de mon message, persévérer dans l'enseignement, parce qu'on va y venir par la suite. Mais avant d'aller plus loin, je vais demander à deux personnes de venir, je leur ai envoyé un petit message WhatsApp, qui me semble parler au sujet du fondement qu'on vient de voir, l'Église. Hein. Et je voudrais interroger deux personnes ce matin. Elles vont venir, ces deux personnes, c'est Céline, si tu veux bien venir, Bessien, et Eric Azaïs. Suspense, hein, roulement de tambour. Hein. Alors, ils ne savent pas de quoi vraiment je vais leur parler. Ils savent juste le sujet un petit peu global. Il y en a un qui se met de chaque côté, comme ça je ferai... Voilà, merci. Alors, je vais parler avec celui-là, pardon. Tu veux les deux? Tiens. Voilà, gardez vos micros. Mais j'essaierai de vous dire qui répond en premier, d'accord? Observez-les, hein, qu'ils ne mentent pas. Non, je plaisante. Voilà. Pourquoi ils sont là? Parce que vous allez le dire. Le dire vous-même. Allez, je leur ai posé la question, savoir s'ils avaient des brebis et des agneaux et tout ça. Donc Céline, combien tu as de...
Alors, ça ne marche pas.
Si, ça va. Mais il est en train de régler.
Donc, moi, j'en ai que 6.
6 quoi?
Brebis.
Brebis, d'accord. 6 voilà. Brebis. Et toi, Eric? Vous, Eric? Et Laetitia aussi, vas-y.
On en a dans les 600.
600. Voilà. Le grand écart, hein. Voilà, 600. Environ 600 ou...
Oui, pratiquement. Enfin, à 4 ou 5 près.
D'accord, ok. Ouais. Non, c'était pour savoir si vous comptiez exactement au nombre pile poil. Bon. Alors, quel est le but de votre élevage? Est-ce que c'est pour la production de lait ou seulement? Ou est-ce que c'est pour la viande? Quel est le but?
Oui, c'est principalement pour la production de lait. Pour qu'on livre le lait à une petite laiterie à Vianne, pour ceux qui connaissent la laiterie Fabre.
Pour qui fabrique?
Des fromages, au lait de brebis, et après d'autres fromages aussi.
Je ne dis pas ça pour que vous alliez taper à leur porte en disant ceci, cela. Hein. Vous pouvez demander renseignement, il n'y a pas du tout de placement hein, là-dedans, dans l'affaire. Hein. Okay. Et toi, Nicolas et pas...
Oui, alors nous, quand je dis 6, c'est 6 adultes. Après, il y a les petits agneaux aussi.
Combien il y en a ?
En général, ils en font un chacun ou des fois deux. Mais voilà.
D'accord.
Et ensuite, nous, c'est que pour la viande.
Que pour la viande. Voilà. Pour plutôt consommation.
Pour manger pour nous, quoi.
D'accord. Je vais essayer d'avoir des questions un peu plus poussées, mais que dois-je faire si je voulais me procurer une brebis ? Que dois-je faire pour augmenter mon cheptel ? Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai une brebis, mais je voudrais que mon cheptel augmente. Qu'est-ce que je fais avec ?
Il faut mettre un bélier, et puis après...
Ouais, d'accord. Ouais,
après,
okay.
Il y a les petits agneaux, puis garder les...
Les femelles.
Les femelles, voilà. Et...
D'accord. D'accord, ah ben c'est bien parce que moi je suis du béton, hein, donc je ne comprends rien à tous ces trucs-là. Ça a quatre pattes, ouais, bon, ça a quatre pattes. Est-ce que, justement, sur l'agnolage, là, parce que des fois en parlant avec toi et peut-être aussi avec toi, si je comprends bien, il y a des saisons où vous faites l'agnolage, c'est-à-dire où ils peuvent naître à tout le moment, les agneaux.
Alors ben non, on groupe les mises bas pour après pour la traite aussi, qu'elles soient nombreuses à la traite, et puis il y a les saisons, quoi, suivant la demande de la laiterie.
D'accord, vous gérez en fait le moment où il faut qu'il y ait la mise bas.
Voilà.
D'accord. Ouais. Et c'est dans quelle période ça ?
Oh ben nous, c'est les mises bas sont mi-novembre, et après on commence la traite mi-décembre jusqu'au début juillet, par là, ou mi-juillet, la traite.
D'accord. Oui, ben ça, tout ça, je l'ai déduit, mais je me disais, est-ce que c'est ça ? Et toi, c'est quand vous...
Nous, c'est pas du tout pareil. C'est comme il y a le bélier tout le temps avec, et ben ça se fait tout seul. Et en général, les brebis annuelles, décembre ou janvier, pour que l'agneau de Pâques soit prêt.
Ah, d'accord. Ah, d'accord. Mais est-ce que combien de temps est la gestation pour un agneau ?
C'est moins moins une semaine.
C'est moins moins une semaine. Oh là, ça commence à prendre du niveau, là. OK. Est-ce que ça arrive qu'il y ait il peut y avoir deux agneaux, des jumeaux, ou pas ?
Oh oui, c'est courant, oui.
Courant ?
Oui, oui.
D'accord.
Oui.
Et vous êtes obligé d'être à l'agnolage, d'être là pour éviter des problématiques ?
Oui, souvent on les assiste, oui.
OK. Je ne sais pas si vous voulez dire peut-être une pensée. Alors oui, tiens, j'avais une question, mais je ne l'ai pas marquée, j'y ai pensé ce matin. Qu'est-ce que vous conseillerez dans l'attitude de quelqu'un qui a, par exemple, si j'ai un petit cheptel de quelques animaux, je débute, qu'est-ce que vous conseilleriez dans la mentalité de faire les choses ? Je vous embête là, mais...
Donc si c'est pour un petit troupeau comme nous, ben, déjà c'est de choisir la race, de sélectionner la race qui est la plus rustique. Nous c'est pour faire de la viande, hein. C'est d'accord, pas pour faire du lait. Hein. Donc voilà. Et déjà c'est très important.
Ouais, d'accord. Et dans le comportement, vous les tabassez tous les jours, tous les matins pour que la viande soit tendre ?
Non, pas du tout.
Ah bon, mais dans le comportement alors ?
Ben, il faut être mignon avec elle.
C'est ce que je voulais vous faire dire, mais j'y arrive maintenant. Hein, c'est sûr qu'il y a un comportement à avoir, une mentalité, et on peut pas, c'est pas que des choses, quoi. C'est des animaux. Ok. Ok. Est-ce que vous voulez dire d'autres choses ? Est-ce que vous voulez, il y a des choses que vous voulez dire ?
Non,
il faut partir ce soir. Merci en tous les cas. Allez, on peut les remercier. Hein. Eh ben, entre 600 et 6, ça fait quand même un paquet. Hein, pourquoi on parle de ça ? Parce qu'un jour, Jésus a dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » C'est pour ça que je voulais finir par cette question. Je pense que c'est important d'avoir une mentalité, le Seigneur nous aime d'un amour profond. Et quand il dit l'image du berger et des brebis, c'est parce que c'était courant à l'époque, même si pour nous c'est moins courant, hormis s'il y a une explication qui nous est donnée ou si on est un petit peu issu du milieu agricole, mais pour beaucoup c'est désuet, pour nous aujourd'hui on ne le comprend pas trop. Et ces questions sont là parce que le Seigneur a dit comme un berger, il nous a dit Ésaïe 40 verset 11, « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Pour revenir à l'Église, au fondement de l'Église, les brebis que nous sommes, le but de l'Église locale, c'est aussi que nous devenions matures. Je ne pense pas, d'ailleurs, je n'ai pas posé la question, mais c'est à partir de quel moment une brebis peut enfanter ? À partir de quel âge ?
12 mois.
12 mois ? Ah ouais, c'est rapide. Ah oui, alors là, c'est impressionnant. Je croyais que ça mettrait des années. 12 mois après, elle peut enfanter. Hein. Ah ben ça, c'est impressionnant. Hein. Et c'est bien, c'est un bon message. Hein. Ça veut dire tout simplement qu'on veut que l'Église aille de l'avant, et pour que l'Église puisse grandir, que d'autres hommes et femmes soient rajoutés à l'Église, il est nécessaire que nous aussi, nous puissions être en maturité. Et c'est les brebis qui enfantent. Et il y a deux possibilités, soit c'est les brebis qui enfantent, soit on rajoute au troupeau, comme Jésus quand il dira, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et là, le sujet, la réflexion de départ que nous avions par rapport à l'Église, c'était de se dire, finalement, l'un ne s'oppose pas à l'autre dans ces deux aspects d'être disciple et d'évangéliser, mais viennent se compléter. Alors, je reviens au texte, si tu peux bien, Léa, me mettre le texte d'Actes 2, 42. Il nous est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'entre eux. Voilà, hein, il persévérait dans l'enseignement. Ce matin, je vais continuer sur cet aspect, le premier aspect. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. En fait, l'Église rassemblait, et si vous regardez ici dans ce texte, vous voyez, il persévérait, c'est le verbe commun aux quatre axes qu'il y avait dans l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain, il persévérait dans les prières. Hein, déjà, rien que le mot nous rappelle des choses. Alors, comment l'enseignement des apôtres est-il capable d'édifier les croyants? Tu peux l'enlever, hein, si tu veux. Merci. Comment l'enseignement des apôtres est capable d'édifier le croyant? Ben, la Bible relate les enseignements des apôtres. La Bible enseigne. Et notre désir en tant qu'Église, responsable d'Église, c'est d'enseigner ce que la Bible dit. Pas enseigner ce qui nous plaît, pas enseigner nos dadas, nos idées, enseigner ce que la Bible dit. Et ça, c'est essentiel et important. Nous le faisons lors des réunions, et à chaque rencontre, pratiquement, nous avons un moment où nous méditons sur la parole de Dieu. Mais il y a aussi, il y aura peut-être des études bibliques plus tard, des mises en place, mais là-haut, les enfants, quand ils sont réunis, là, il n'y a que les ados aujourd'hui, les adolescents, mais quand ils se réunissent, c'est aussi un enseignement qu'ils leur ont donné, selon leur âge. Et ce qui en poursuit en cela, c'est que chacun s'approprie l'enseignement des apôtres. Ce que chacun s'approprie l'enseignement de Jésus, hein, parce que les apôtres, de Jésus, de Dieu. Hein, et que eux-mêmes, ces apôtres, l'ont reçu de Jésus, donc ils transmettent ces choses-là. Vous savez, Jésus et les apôtres enseignaient aussi pas mal. On voit Jésus souvent guérir, etc. Nous, on aime bien ces passages parce que c'est quand même spectaculaire, surprenant. Mais Jésus va enseigner. Par exemple, il va enseigner la parabole des deux maisons. Vous savez, une qui est debout, et les deux sont identiques, il y en a une qui est bâtie sur le sable, et elle tombe, et c'est ceux qui écoutent la parole qui ne la mettent pas en pratique, et la même maison, ou la même structure, dirons-nous, mais elle est bâtie sur le roc, c'est celui qui écoute la parole, et les événements qui subit celui-ci sont les mêmes que l'autre, mais lui il reste debout, pourquoi? Parce qu'il met en pratique la parole de Dieu. Ça c'est un enseignement, et Jésus va enseigner par les paraboles, Jésus enseigne de diverses manières. Il nous est dit par exemple, Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Il va dire aussi, vous savez, quand on vient le chercher dans le jardin Gethsémané, on vient en pleine nuit, Judas l'a trahi, il nous dit « En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Donc l'enseignement, c'est quoi en fait ? C'est l'exposition systématique, je dirais, de ce que la Bible enseigne. C'est ce que la Bible communique. Pourquoi persévérer dans un enseignement de la parole ? Ben, c'est simple. Hein, c'est simple. Il est nécessaire de connaître la parole, la Bible, parce qu'il y a ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler de la doctrine, c'est-à-dire qui est Dieu, qui est Jésus, pourquoi Jésus est mort, qu'est-ce que le salut, pourquoi le péché, pourquoi il y aura les temps de la fin, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la doctrine, et c'est essentiel, c'est important de connaître ces choses. Alors, on connaît des fois un petit peu certains aspects, nuances, mais aujourd'hui, il est nécessaire, lorsqu'on grandit dans la foi, on n'a pas la même nourriture que quand on débutait. On doit aller plus loin dans la parole, non pas comme il faut, mais c'est un encouragement à nous fortifier. Parce que, en fait, pourquoi persévérer dans l'enseignement ? Pour croître harmonieusement, pour se développer correctement. C'est nécessaire de connaître tous les aspects de la révélation divine. Malheureusement, et je le dis, sans jugement, mais trop peu d'églises sont enseignées systématiquement dans l'ensemble des grandes doctrines de la parole de Dieu. Où on enseigne que certains aspects qui sont porteurs, dirons-nous, et d'autres ont peut-être, parce qu'on pense que c'est déduit, on laisse faire, mais je parle pour moi, responsable de l'Église, et nous, anciens de l'Église, de nous encourager à ce qu'on puisse enseigner correctement toute la parole de Dieu, sans tomber dans des lois et des principes et des obligations, mais avec un cœur vrai. Parce que plus on s'approche, on s'aligne à ce que la Bible nous dit, et on accepte ces choses, plus on va grandir dans la foi. Et plus on aura cette maturité, ce courage. Il faut savoir ces choses pour être bien équilibré. Hein. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans Éphésiens, par exemple, il dira « afin que nous ne soyons plus des enfants hein, flottants et emportés à tout vent de doctrine, et par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Par exemple, si je ne connais pas grand-chose sur le retour de Jésus, sur les temps de la fin, sur ce qu'on appelle l'eschatologie, hein, sur les grands mots, et que je veuille m'y intéresser, j'ai la possibilité, par exemple, de me dire, tiens, je vais aller chercher sur Internet. Alors là, si vous allez chercher sur Internet, vous avez le droit, hein, sur l'eschatologie, vous avez de quoi passer quelques semaines à réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'il y a de tout, et de belles choses, des choses moyennes, et des choses mélangées. Et alors que vous lisez, vous perdez votre parcours, vous êtes perdu. Pourquoi ? Non pas parce que les gens sont stupides dans ce qu'ils ont écrit, mais parce que des fois, il y a des perceptions différentes. Mais aussi, il faut avoir une connaissance minimale. Et des fois, ça peut nous amener à avoir une espèce de découragement. Hein. Et c'est pour ça que je nous invite vraiment, non pas seulement à consulter directement Internet, c'est la facilité, on va aller vite chercher la réponse, mais en fait, de connaître la parole. Alors là, c'est sûr que ça demande du temps. Ça demande de la réflexion. Et c'est le lot, normalement, pour tous les chrétiens. Ce n'est pas fait que pour les enseignants ou les responsables d'église. C'est notre fonction, bien sûr. Mais bien au-delà, c'est la fonction de tous les chrétiens de connaître la parole de Dieu. Il est dit que c'est l'épée de l'esprit. Elle est l'épée de l'esprit. Si je prends jamais une épée en main, je ne vais jamais me battre avec l'épée. Heureusement. Il vaut mieux, d'ailleurs. Hein, vaut mieux laisser en décoration. Mais si je vais m'entraîner, si je l'utilise à bon escient, je vais avoir une certaine dextérité, une capacité qui n'est pas issue de mes facultés, mais elle est issue de mon engagement. Et souvent, j'entends des gens qui me disent « Oui, mais vous savez, pasteur, je n'ai pas la mémoire. » Ben moi non plus. Hein. Et peut-être que vous l'avez meilleure que moi. Ok. C'est pasteur, vous comprenez, mais non. Voilà. C'est pas être humble que de faire ça. Hein. L'humilité, ça n'a rien à voir à dire « je ne sais pas, je ne fais rien hein. ». L'humilité, c'est plutôt dire « je sais qui je suis et je veux grandir dans les voies de Dieu » parce que lui, il peut tout. Hein, hein. Et nous sommes invités à vraiment réfléchir. L'apôtre Paul dira dans Romains 16 « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » Pourquoi ? Parce que dans la société, dans le monde chrétien aujourd'hui, il y aura de plus en plus de diversité, non pas d'interprétation, mais il y a des fois des gens, c'est des lourds ravisseurs. Ils vont vous tromper. Vous savez, quand on a eu le Covid, on a vu, hein, ça nous a été un peu compliqué à tous. Hein, je repensais encore hier, là, quand j'étais là, on était là, on avait une réunion, après je réfléchissais, je me disais, tu te rends compte, en allant aux toilettes, hein, j'ai vu les pancartes qu'on avait mis à l'époque. Je me dis, oh, on n'est plus dans ce temps-là. On n'est plus dans ce temps-là, et heureusement. Mais à ce moment-là, vous vous rappelez, une espèce d'émulation dans les églises où tout le monde se disait « Est-ce que c'est pas le chiffre de la bête ? Est-ce que c'est pas ceci ? Est-ce que c'est pas cela ?» Tout le monde était en panique. Et nous tous, on était en réflexion. On se disait hey, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, ceux qui connaissent la parole avaient une certaine posture qui faisait que « Bon, on va prendre le temps de bien réfléchir. » Et d'autres, dans la panique, « Ah, c'est 44 000 dans le vaccin, dans les machins, dans les trucs. » On a fait toute une histoire. Pas possible, tellement que vous vous rappelez, on a dû faire un enseignement en deux temps, on avait fait ce jour-là, pour qu'on puisse se positionner ou s'apaiser, parce que la nécessité de connaître la parole est importante. C'est pas quand les choses arrivent qu'il faut qu'on dise « Ah, ça existe !» C'est avant. Et je dis pas ça par critique, hein, que personne ne se sente blessé, c'est pas du tout mon intention, ce serait dramatique. Mais ce qui est le meilleur antidote contre les erreurs, les hérésies qui menacent les enfants de Dieu, c'est l'enseignement de la parole. C'est connaître la parole. Hein ? On ne s'y trompe pas. Hein ? Il ne faut pas se tromper de réflexion. Hein ? Alors, je continue. Ça va ? Vous avez pas... Vous dites, oh là là, il est dur aujourd'hui. Vous pouvez le dire, ce n'est pas grave. Enseignement, vous savez combien le mot enseignement revient dans le Nouveau Testament ? Il revient de plus de 1322 fois dans le Nouveau Testament. Vous rendez compte, c'est pas, c'est le mot didaké. La didaké, d'ailleurs, est un livre qui a été écrit dans le 1er siècle aussi par les soi-disant les apôtres. Alors, ça revient 1322 fois dans le Nouveau Testament. Vous savez, quand ça revient récurrent, c'est que c'est nécessaire de s'y arrêter et d'y réfléchir. Et l'enseignement de la Bible est important d'être saisi. Il persévérait dans l'enseignement quand ? Tous les samedis, le jour de Shabbat ? Non, il nous dit tous les jours. Alors, bien sûr, peut-être, bon, je ne peux pas rentrer dans la. Ce qu'on ferait de l'herméneutique, on l'a fait vendredi soir, je ne vais pas rentrer dans ces choses-là. Hein. Je vais terminer juste par un aspect et je conclue. L'enseignement des apôtres. Alors oui, quelqu'un pourrait dire, mais moi, vous savez, j'ai connu des églises, il y a eu des problèmes, donc je ne vais plus à l'église, je vis tranquillement chez moi. J'ai des livres, j'ai la Bible, j'ai des commentaires sur Internet, partout, j'ai des bouquins, j'ai à travailler. Hein. Comme ça, voilà, je vais de l'avant. Cela semble suffisant. L'enseignement des apôtres, il était oral, était collectif, était mutuel, j'emploie des mots exprès, était pratique. D'ailleurs, la parole de Dieu, il nous semble que l'avantage de l'enseignement oral, même s'il faut des écrits complétés, ça a une valeur affective plus grande. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on s'est réunis, la Bible dira dans Psaume 133, quand des frères sont réunis ensemble, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent que de faire un enseignement personnel dans son coin. Moi, chacun d'entre nous médite et on apprend, et c'est riche. Mais il y a aussi ce temps où, lorsqu'on est ensemble, Dieu touche nos cœurs d'une manière particulière, parce qu'il y a un échange, parce qu'il y a une parole, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Dieu est celui qui agit. Hein ? Vous savez, selon l'orateur, le ton de sa voix, on peut endormir quelqu'un. C'est ce que je peux faire ce matin pour certains. Peut-être les gestes, etc. Mais surtout, il y a l'émulation spirituelle qui est là. Il y a l'action et l'onction de l'esprit. Dieu a voulu le rassemblement pour qu'il y ait quelque chose qu'il se multiplie. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Si je prends une branche allumée, vous savez que c'est sorti du feu, elle fume un peu, il y a la flamme, mais au bout d'un moment, elle s'éteint toute seule, elle va diminuer. Mais si ensemble, je prends plusieurs branches, je les mets, ça va faire un brasier. Et je rajoute, ça fait un brasier. Et pour moi, l'Église, c'est vraiment cet endroit où l'enfant de Dieu, qui est rempli de l'Esprit, il se complète avec ses frères et sœurs. Et il y a là une action de Dieu glorieuse qui se manifeste. Alléluia, hein ? Et nous ne voulons pas vivre une temps d'Église où on a une liturgie qui nous endort, où on comprend plus ce qu'on fait, mais on veut vivre dans une Église où on dit, Seigneur, ce qu'on veut, c'est que toi, tu sois le vivant au milieu de nous, et que tu aies toute place. Ce qu'on veut, Seigneur, ce n'est pas des traditions, ce qu'on veut, ce n'est pas des superficialités, on veut un cœur renouvelé, un cœur rempli de ta vie. Et ça, ce qu'il persévérait, tout ce qui était écrit, c'était juste après la Pentecôte, juste au moment où ce feu est venu. Ils auraient pu dire, ils auraient pu avoir écrit, ils persévéraient dans ces moments d'ambiance, ces moments où, alléluia, seulement. Non, il persévérait dans tout un tas de choses. Et la parole de Dieu est très claire. Il ne faut pas que nous nous trompions. Aujourd'hui, on peut facilement, dans nos raisonnements, élaborer, échafauder des réflexions. Mais ces réflexions, elles ont besoin d'être vraiment, censurées parfois, redressées, encouragées par la parole, pour que nous puissions voir encore la gloire de Dieu. Alors, je conclue, et après je fais une application, parce que vendredi soir, je me suis retrouvé à discuter de certaines choses, et je dis, il faudra qu'on fasse une application. Vous avez compris pourquoi l'Église existe. À la fois, elle est un moyen entre les mains de Dieu pour édifier le corps de Christ, pour que nous devenions des disciples et non des croyants, pour que nous puissions aller de l'avant. Et mes frères et sœurs, nous sommes encouragés à persévérer dans l'enseignement, mais aussi dans la prière, dans la communion, etc., ce qu'on fait ce matin, mais aussi ce qu'on veut faire des fois dans des réunions de semaine, etc. Je sais très bien qu'on a tous un programme, mais je nous encourage à vraiment nous unir, à aller de l'avant. Et puis, c'est à la fois un moyen pour aller vers les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur, enfantées spirituellement. Alors, l'application. Comment appliquer concrètement ce que l'on vient de partager ? Ben déjà, si je suis croyant, en prenant la décision de soumettre toute ma vie pour être un véritable disciple du Seigneur. Et peut-être dans cette semaine, de faire le point, de dire, mais est-ce que vraiment je suis un disciple ou est-ce que je suis un croyant ? Seulement un croyant, mais le Seigneur ne me juge pas, il ne me dit pas, tu ne vaux rien. Il m'encourage à aller plus loin. Il m'encourage à venir plus près de lui. Autre application, pour ce faire, je veux me déterminer, et ça se complète, à étudier vraiment la parole de Dieu. Je ne sais pas m'y prendre, je ne sais pas comment il faut faire. Je vais demander conseil. Il y en a d'autres qui sont là avancés dans la foi bien avant moi. Je vais leur demander conseil, peut-être. Voilà. Mais je ne vais pas non plus essayer de faire trop d'un coup, alors que je ne sais pas faire quotidiennement certaines choses. Je veux apprendre. Et le Seigneur est celui qui est un bon pédagogue, un bon précepteur, hein, celui qui donne les préceptes. Il est celui qui nous a donné l'Esprit Saint pour nous conduire dans toute la vérité. Et mes frères et sœurs, voilà, si vous n'êtes pas disciples et si je ne suis pas encore vraiment un disciple accompli, eh bien, je peux le devenir. Et je veux le devenir. Parce que Dieu m'invite à m'approcher de lui. Il persévérait dans l'enseignement. Persévérons dans l'enseignement les uns les autres. Pas comme, vous savez, d'un apprentissage pour un apprentissage, mais quelque chose qui est nécessaire pour notre vie et qui nous amène plus loin. On pourrait se lever pour terminer dans la prière. Je suis conscient que j'ai survolé beaucoup de choses et on aurait pu s'arrêter sur plusieurs aspects. Mais l'important pour nous, ce n'est pas tellement de tout savoir. L'important pour nous, c'est de pouvoir aller de l'avant et voir la gloire de Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour également tous les bien-aimés qui sont là. Tu as travaillé leur vie, tu nous as touché notre cœur, tu nous as sauvés. Et tu veux nous inviter à ta suite, Seigneur. Ou pas juste être des croyants qui se satisfont un peu, mais nous voulons, Seigneur, être de véritables disciples. Parfois, on peut ne pas savoir comment s'y prendre, on est un peu perturbé, mais lorsqu'on t'offre nos vies, lorsque vraiment on s'engage pleinement, tu nous aides dans notre démarche, dans notre, Seigneur, désir de vraiment être un disciple. Apprends-nous à te soumettre toute notre vie, sans rien, rien laisser de côté, pour que, Seigneur, nous puissions vraiment être soumis pleinement à ta volonté. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour ceux ici qui s'engagent, qui vont prendre les eaux du baptême, d'autres qui sont là peut-être. Bénis-les, Seigneur, que ta bonne main soit sur chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bonne.